Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 7 juin 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. L'Iran a condamné l'attentat terroriste contre des civils dans une ville du nord du Burkina Faso, le plus meurtrier depuis 2015, se déclarant prêt à coopérer avec les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités syriennes ont condamné une visite illégale de délégations venues de France et des Pays-Bas dans les territoires qui échappent au contrôle de Damas. Et au Nigeria, une attaque dans le sud-ouest du pays a fait 11 morts. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a condamné l'attentat terroriste contre des civils dans une ville du nord du Burkina Faso, le plus meurtrier depuis 2015, se déclarant prêt à coopérer avec les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a exprimé dimanche 6 juin son profond regret pour le meurtre d'au moins 160 ressortissants burkinabés à la frontière du pays avec le Mali et le Niger lors de l'attaque. L'Iran est prêt à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme avec les pays africains, dont le Burkina Faso, a déclaré M. Khatibzadeh. Le nord du Burkina Faso a été frappé dans la nuit de vendredi à samedi par deux attaques dont l'une a fait au moins 138 morts, la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences en 2015. Ces attaques ont été commises dans la zone dite des trois frontières entre Burkina, Mali et Niger, régulièrement ciblées par des assauts meurtriers de terroristes présumés liés à Al-Qaïda et au groupe Daesh, contre des civils et des militaires. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Zolan, dans la province du Yaga. 160 personnes ont été tuées. Il y a plusieurs dizaines de blessés. L'attaque et le bilan d'une centaine de morts ont été très vite confirmés par le gouvernement qui a précisé dans un communiqué que les victimes sont des civils sans distinction d'âge tués par les terroristes et que plusieurs habitations et le marché de Solhan ont été incendiés. Devant cette tragédie des forces obscures, un deuil national de 72 heures a compté de ce jour 5 juin minuit et jusque lundi 7 juin 22h59 est décrété, ajoute le gouvernement qui affirme que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes et ramener la quiétude au sein des populations. Au Yémen, des sources locales à Marib font état de l'insurrection à l'intérieur d'une caserne de la coalition saoudienne et annoncent que les forces de la 203e brigade de Marib avaient désobéi aux ordres des forces de la coalition de rester dans les bases militaires. À cet égard, de nombreux effectifs de la 203e brigade affiliés à la coalition saoudienne ont quitté leur caserne et se sont rendus dans les provinces de Chabwa et de Hadramout. Source yéménite a signalé 112 cas de violation de cessez-le-feu par les agresseurs et leurs agents au cours des dernières heures, à savoir le renforcement des fortifications dans la région d'Al-Jabaliya, 4 vols des avions d'espionnage au-dessus des régions d'Al-Faza et d'Al-Jal, 21 vols des avions d'espionnage au-dessus des régions d'Al-Taïta et d'Al-Drayami, d'Al-Jabaliya et d'Al-Jal, ainsi que des tirs d'artillerie. Des sources yéménites ont déclaré que les militaires saoudiens avaient ciblé à 10 reprises la zone de Sirba dans la province de Marib. La zone d'Al-Mahashma dans la province d'Al-Jawf a également été prise pour cibler des frappes aériennes. En réponse aux agressions saoudiennes, le 6 juin, les forces armées yéménites ont mené une nouvelle attaque contre la base aérienne Malik Khaled dans la région de Khamis Mushait. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que la base aérienne avait été ciblée par un drone suisse. Tamad 2. En Syrie, les FTS affiliés aux forces d'occupation américaines ont enlevé un certain nombre de jeunes hommes du quartier de Taï dans la ville de Ramishli et les ont conduits à un lieu inconnu. en parallèle avec son établissement des barrières armées dans plusieurs quartiers de la ville. Des sources locales ont fait savoir à la correspondante de Sanaa, l'agence de presse officielle syrienne, que des groupes terroristes affiliés au FTS avaient pris d'assaut dimanche soir plusieurs maisons dans le quartier de Taï dans la ville de Ramishli avant d'enlever 6 jeunes hommes qu'ils avaient conduits à un endroit inconnu. Par ailleurs, les réseaux terroristes ont attaqué la localité de Jourine dans la banlieue nord-ouest de Hama. Le correspondant de Sanaa a fait savoir que les réseaux terroristes déployés dans la banlieue d'Idlib avaient attaqué avec 6 roquettes la localité de Jourine, ce qui a fait des dégâts matériels dans certaines maisons et dans les propriétés publiques et privées. Et 3 terroristes, mercenaires de l'occupation turque, ont été tués à la suite de l'explosion d'une mine. Des sources civiles ont révélé qu'une mine terrestre avait explosé dans une voiture transportant nombre de mercenaires de l'occupation turque à la périphérie du village d'Al-Larisha, ce qui a fait 3 terroristes tués et causé des dégâts matériels sur place. Pendant les dernières années, la Turquie a implanté des dizaines de bases et de postes militaires aussi bien en Syrie qu'en Irak, dont les provinces de Druk et d'Erbil situées au Kurdistan irakien. Au mois de mai, l'armée turque a déployé 5500 soldats ainsi que des équipements militaires lourds au nord de la province de Druk sous prétexte de lutter contre les éléments du PKK. Bien qu'Ankara prétende que cette opération vise à assurer la sécurité de ses frontières en éradiquant les éléments du PKK, nombreux sont les experts étant d'avis que le vrai objectif de la Turquie est d'asseoir son influence au nord des provinces d'Erbil et de Druk. Les Turcs contrôlent 25 bases et postes militaires dans la province de Druk, dont la plupart sont situés près de la frontière de la Turquie et en ont une dizaine d'autres dans la province d'Erbil. Dans la province de Ninive, plus précisément au nord-est de la ville de Mossoul, l'armée turque contrôle la base militaire de Bashira. Bref, l'armée turque a jusqu'ici implanté 36 postes et bases militaires ainsi que des centres de renseignement dans le nord de l'Irak et il se peut qu'Ankara procède à l'occupation de plus grandes parties des territoires irakiens, notamment à Druk, pour ainsi rendre le terrain propice à la mise en place des sièges militaires. Les autorités syriennes ont condamné une visite illégale de délégations venues de France et des Pays-Bas dans les territoires qui échappent au contrôle de Damas. La Syrie a condamné l'entrée illégale de délégations françaises et néerlandaises sur les territoires contrôlés par les unités des forces démocratiques syriennes FTS dans le nord-est du pays, rapporte l'agence presse officielle syrienne Sanaa. Samedi 5 juin, les médias kurdes ont annoncé l'arrivée dans la ville de Ramishli d'une délégation néerlandaise. Une délégation française se serait également rendue dans des territoires contrôlés par les FTS fin mai. Selon un porte-parole ministériel, la délégation de la Fondation Daniel Mitterrand et de la mairie de Paris s'est rendue illégalement dans la ville de Ramishli, ce qui constitue une autre implication directe de la France dans l'agression contre la Syrie. Au Nigeria, 11 personnes sont mortes dans l'attaque samedi d'un village de l'État nigérian, Dio, a annoncé dimanche soir la police locale. Un groupe d'hommes armés venus à moto a attaqué Igangan, une localité de la région d'Ibarapa Nord, tuant des habitants et incendiant des maisons, a-t-elle précisé dans un communiqué. Certains des assaillants présumés figurent parmi les morts. Des groupes d'autodéfense locaux ayant riposté a poursuivi la police sans préciser le bilan des morts et blessés des deux côtés. La police a déployé des dispositifs de renseignement et tactiques composés de forces mobiles, de patrouilles et d'autres équipes tactiques de concert avec les chasseurs et les groupes d'autodéfense locaux afin d'empêcher que ne se détériore davantage la loi et l'ordre dans cette région, a assuré le chef de la police de l'État, Dio Ngozi Onadeko. Deux agents de sécurité libyens ont été tués et 4 autres blessés dimanche dans un attentat suicide visant un poste de sécurité à Sepha. Vers 18h30, hors local, 16h30 GMT, un kamikaze au volant d'un tuk-tuk chargé d'explosifs a ciblé ce point de contrôle, a précisé Senoussi Saleh Senoussi, chef de la sécurité de Sepha. Cité dans un communiqué de l'administration municipale sur sa page Facebook. Celle-ci a demandé à toutes les agences de sécurité de mettre fin à de telles attaques et à en identifier les responsables. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cet attentat. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Au Moyen-Orient, la frappe préventive a-t-elle changé de camp? À peine 15 jours après l'entrée en vigueur d'une trêve infiniment fragile que l'axe US-Israël a arraché à la résistance par Égypte interposée, qui tire ces jours-ci à infini plaisir à voir Israël continuer à s'écrouler sous les coups balistiques subis dont l'onde de choc continue à s'étendre, le centre de commandement conjoint de la résistance a embrasé le front irako-yéménite, façon de rappeler au chef du Pentagone, Lloyd Austin, et ses lieutenants, que sont les généraux Milley et Mackenzie, qu'à Gaza, la résistance n'a procédé, comme l'a souligné le leader du Hamas noir, qu'à un test, et que la vraie guerre, si elle commence, saura changer totalement la face du Moyen-Orient. Dans la nuit de samedi à dimanche 6 juin, au bout d'une semaine d'état d'alerte incessant des troupes US, avec en toile de fond des centaines de vols quotidiens d'hélicoptères, de drones de reconnaissance dans les zones à risque, trois des principales bases aériennes US Company ont été visées en Irak et dans le sud saoudien. Et on passait ainsi, et à quelques minutes d'intervalle, la zone verte de Bagdad, Ain al-Assad, à Al-Anbar et la base aérienne King Khalid à Khamis Mouchait, au sud de l'Arabie. C'est visiblement Ababil, emblématique drone de la résistance, qui a volé la vedette. Alors qu'Ansar Allah a impliqué ses RASF K2 à l'intention des F-15 saoudiens qui continuent en dépit d'une prétention de trêve à frapper Sada et Sana, l'ambassade base US à Bagdad, qui passait depuis une semaine de manœuvres de DCA intensifs et ce sur fond de rapports de la CIA mettant en garde contre l'imminence d'une attaque, une salve de roquettes a été visée vers minuit. Évidemment, aux grandes dames des patriotes des Seram et des Avengers qui tournaient ces derniers jours à plein régime pour que cette attaque au drone ne se produise pas. Car depuis que le chef du CENTCOM a reconnu que l'US Air Force a perdu sa supériorité et qu'elle ne peut rien contre les petits drones iraniens, c'est tout le complexe industriel et militaire US-Israël qui est en émoi. Les 11 jours de guerre Israël-Gaza n'ont d'ailleurs fait que cautionner les propos de Mackenzie et porter une pierre à la stèle de la suprématie aérienne US-Israël au Moyen-Orient. Un peu de façon prémonitoire, le Foreign Policy d'il y a 2 jours revenait sur les raids de drones contre les cibles américaines pour en commenter celui qui a ciblé dans la nuit de 13 à 14 avril le siège de la CIA à l'aéroport d'Erbil. Certes, ils n'ont pas fait de mort ces drones, mais ils sont devenus une obsession permanente pour le Pentagone et la Maison-Blanche. Obsession qui fait visiblement partie de la stratégie de guerre psychologique de l'Iran et de ses alliés contre les troupes US au Moyen-Orient. Et Foreign Policy ne croit pas si bien dire. Après Gaza, où la résistance a testé tactiques, armes et stratégies anti-US, anti-Israël, aucun jour ne passe sans que les troupes US et alliées n'aient à faire face à un foyer de feu surpris à portée préventive. Irak, Yémen, Syrie, Gaza, ce sont des fronts où l'attaque préventive n'est plus menée par les Américains, mais par leurs ennemis. Les troupes US tiendront-elles longtemps? À Tel Aviv, dont le ministre de la guerre se trouve en visite d'explication aux États-Unis, l'heure est à mettre de l'eau dans le vin guerrier. En Arabie, on n'entend plus parler de Ben Salman, qui craint de perdre un de ses 4, un premier port pétrolier, à savoir Jizan, dont 150 km² sont pris par Ansar Allah. Quant à l'Irak, une toute dernière information fait état du feu vert US pour un redéploiement de troupes en dehors de l'Irak. Le feu vert, avez-vous dit? Non, sire, c'est la débandade.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 6 juin 2021. La réplique de la récente défaite de l'entité israélienne face à la résistance palestinienne continue de se faire sentir non seulement sur le terrain sécuritaire et militaire, mais aussi sur le terrain politique. En effet, sur le plan militaire, le régime sioniste ressent plus que jamais l'incapacité de son système de missiles antimissiles, le Dôme de fer, face aux tirs de roquettes et de missiles de la résistance palestinienne depuis la bande de Gaza. Et sur le plan politique, pendu justement au rythme des défaites consécutives de l'entité sioniste face à la résistance palestinienne, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a été en quelque sorte liquidé. Et il cherche à l'heure actuelle, en effet, pour réparer cette défaite, de bouleverser coûte que coûte, en effet, la scène politique israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur les répliques de la victoire de la résistance palestinienne sur le plan militaire, sur la scène, en effet, politique, mais aussi sur le plan militaire. En Israël. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Réagissant à de nouvelles agressions de Tel Aviv, la résistance palestinienne a riposté à l'entrée de drones israéliens dans l'espace aérien de la bande de Gaza, et ce, sur fond des inquiétudes du Congrès américain du manque de missiles intercepteurs destinés à être utilisés par le système antimissile Dôme de fer. Dans la matinée du jeudi 3 juin, la résistance palestinienne a tiré sur les drones sionistes qui sont entrés dans l'espace aérien de la bande de Gaza, a rapporté la chaîne d'actualité Al Jazeera. Les avions espions israéliens volaient à basse altitude dans plusieurs zones à Gaza, à savoir Al-Zaytoun, Al-Shujaya, Al-Tafa, le camp de réfugiés d'Al-Shati, Tal al-Awi, Al-Rimal, Jabalia, Beit Laïa et Al-Karama. Il s'agit de la première entrée de drones israéliens dans l'espace aérien de la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu. Le Congrès américain tente de s'assurer que le Dôme de fer puisse continuer à protéger Israël sans risquer de manquer de missiles intercepteurs et qu'Israël ait les ressources dont il a besoin pour se défendre contre les tirs de roquettes non seulement en provenance de Gaza, mais aussi des frontières nord des territoires occupés. En effet, la récente opération de l'armée sioniste contre la résistance palestinienne a montré que le système antimissile Dôme de fer est incapable de contrer les missiles tirés en direction des territoires occupés, de même qu'aucun système de défense aérienne au monde n'est en mesure d'apporter un soutien total. Dans ce contexte, le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, a rencontré jeudi le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, au Pentagone pour discuter, entre autres, des menaces de l'Iran et de la récente opération gardien du mur à Gaza qui a mis échec et mat Israël et ses alliés. De nombreuses recherches sur les caractéristiques des systèmes de défense aérienne montrent qu'il est très difficile de combiner les capacités nécessaires à faire face à la fois à tous les types de missiles et aux drones à basse altitude avec un seul système de défense aérienne, d'où l'incapacité du régime sioniste à se défendre pleinement contre les attaques de missiles depuis la bande de Gaza et la supériorité du S-400 russe sur les autres systèmes de défense dans le monde, en particulier américains.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Nous allons tout de suite commencer cette émission avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, qui est avec nous depuis Toulouse. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Monsieur Codavandier. Merci. Salutations à nos auditeurs et à votre invité, j'espère.
Je le disais en début de cette émission, Monsieur le professeur, les répliques de la récente défaite de l'entité israélienne continuent de se faire sentir, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique en Israël. Si vous voulez bien, on va commencer justement avec ce qui serait plus important pour l'entité israélienne, mais aussi crucial en effet pour l'axe de la résistance, à savoir les marges de manœuvre militaire désormais, bien sûr, du régime sioniste, et surtout ce qui faisait au dire des responsables israéliens, en quelque sorte, la supériorité, la prétendue supériorité de l'entité israélienne, à savoir sa DCA, son système de défense antimissile, le dôme de fer. Il paraît que ce dôme de fer a plus que jamais prouvé son incapacité eu égard aux récents, en effet, tirs de roquettes et de missiles depuis la bande de Gaza.
Oui, en effet, je crois que les constructions comme celle du dôme de fer ne sont valables que dans un cadre vraiment précis et qui te fait fixe, disons, et qui est en fait utopique. Car l'évolution, disons, de cette guerre de fusées fait que on peut, par le nombre et par la qualité, bien sûr, des nouvelles inventions, disons, désorienter quelque peu, disons, l'observation, disons, de ce dôme de fer. Je ne crois pas que, disons, que les scientifiques israéliens, les gens du Pentagone et autres, enfin tous ceux qui sont intéressés à la formation et à l'entretien du système israélien, soient surpris. Et alors là, la question devient politique. C'est-à-dire que, est-ce que les Israéliens n'ont pas, ne veulent pas utiliser, disons, cette déficience tout à fait naturelle du dôme de fer, je dis naturelle, devant l'évolution des techniques, l'évolution, disons, de l'ingéniosité, disons, de ceux qu'ils ont attaqués, et le nombre, surtout la grande quantité. Est-ce qu'ils ne vont pas profiter de cela, je le crois, pour pouvoir, disons, apparaître comme affaiblis, trop affaiblis, plus qu'ils ne le disent, aux yeux de leurs protecteurs et, je vais dire, de leurs clients américains. Je crois que c'est le sens de la visite que votre commentaire a fait tout à l'heure, cette dame a fait, sur la visite de M. Gaines au Pentagone. En effet, la politique israélienne est de pleurer, c'est-à-dire d'estimer qu'ils sont faibles, alors qu'ils se préparent méthodiquement, comme le démontre l'incursion des drones au sein de la population de Gaza, de sacrifier cette population, enfin disons, de la terroriser, de la meurtrir sans cesse. Vous savez, la grande force des Israéliens, si je puis dire, c'est une force vicieuse, c'est de pleurer, c'est-à-dire de croire qu'ils sont victimes, de faire croire qu'ils sont uniquement entièrement victimes, alors qu'ils sont essentiellement des agresseurs permanents. Et ceci depuis le début de la formation de l'État, depuis le début des hostilités entre eux et la nation palestinienne, la nation syro-palestinienne. Et leur volonté aussi, disons, de ne jamais négocier, de ne jamais chercher à fixer, disons, les termes d'une relation politique qui leur a été demandée, non seulement, je signale, surtout à nos jeunes auditeurs, après la formation de l'État, mais même avant la formation de l'État, quand les commissions britanniques demandaient, déjà dès 1935, 36, 37, de faire, disons, de songer à une sorte de coexistence entre deux organisations étatiques, arabes et sionistes. Je crois qu'ils ne veulent pas cela. Ils vivent dans un état de, disons, d'affolement perpétuel, au détriment de leur propre population, et avec ceci qui est assez injuste même, disons, il faut le reconnaître au sein même d'Israël, c'est que le gouvernement ne prend pas même ses responsabilités. Il se présente lui-même comme étant minoritaire au sein de la politique, dans l'échelon dans l'ensemble des partis politiques. Et donc c'est une manière, si je puis dire, de ne pas prendre ses responsabilités, de dire si j'avais davantage de soutien, je pourrais faire une autre politique. Non, tout ceci me semble, disons, soigneusement calculé. Et la faiblesse du dôme de fer, dont vous venez de faire état, M. Codabandé, est une faiblesse, à mon avis, qui entre également dans les calculs de cette armée sioniste, qui ne peut pas se défendre elle-même. Elle ne peut se défendre que si elle appelle à son secours, voyez-vous, les autres États, en particulier les États-Unis, mais pourquoi pas l'OTAN. Vous savez que l'influence israélienne est très forte en Europe même.
Merci. Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, monsieur le professeur. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous. Bonjour, professeur Zortiguier. Bonjour à l'équipe et à tous vos téléspectateurs.
Monsieur Michel, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, alors, deux semaines après la fin, en effet, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, qu'est-ce qui reste de la prétendue supériorité aérienne de l'entité sioniste dont le dôme de fer était en quelque sorte le symbole. Il paraît que le dôme de fer a bien montré en effet ses limites, d'où justement la récente visite du ministre israélien de la guerre aux États-Unis et ses entretiens avec le secrétaire américain à la défense.
Je partage en partie, mais en partie seulement, l'analyse du professeur Dortiguer. Il y a tout d'abord le premier élément, c'est la paranoïa israélienne. Dans les années 80-90, les historiens israéliens avaient lancé un grand débat. C'était une réflexion sur le sort de ce qu'on appelait les États francs de Palestine, c'est-à-dire les États français qui étaient à Saint-Jean-d'Acre, à Antioche, etc., dus aux croisades et qui ont été rejetés à la mer en 1270. Les Israéliens s'interrogeaient pour savoir s'ils allaient commettre le massacre. Ça révélait la paranoïa israélienne. La deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est un élément de guerre psychologique vis-à-vis des États-Unis. Les Israéliens souhaitent rester l'allié principal. Ils savent qu'on a besoin d'eux pour faire l'OTAN du Proche-Orient avec les Émirats. En faisant croire à leur vulnérabilité, tout d'abord, ils demandent encore plus d'argent, c'est-à-dire 1 milliard de dollars. C'était cela les raisons cachées de la visite du ministre de la Défense israélienne. Mais surtout, ils ont peur que Joe Biden n'abandonne la politique pro-israélienne de Trump, notamment sur Jérusalem et Gaza. Dès lors, il faut forcer la main à Biden. Biden a dû reconnaître qu'il allait protéger Israël. Et je vais même aller plus loin. Certains experts israéliens disent que la nouvelle majorité de gouvernement sans Netanyahou, c'est pour rendre les choses acceptables à Biden. Troisième élément, c'est réellement l'échec du dôme de fer. Le dôme de fer, c'était une supériorité technologique dans les années précédentes. Il faut partir de la réflexion de Poutine qu'il a fait hier au sommet économique de Saint-Pétersbourg. Il parlait des Américains, mais la réflexion de Poutine, elle vaut pour les Israéliens. Il expliquait qu'aucune puissance impérialiste n'a une supériorité militaire éternelle, que de nouvelles armes vont être produites par leurs concurrents qui vont servir à les vaincre. C'est ce qui s'est passé. D'une part, Israël avait, depuis quasiment la chute de l'Union soviétique, la supériorité stratégique sur tout le Proche-Orient. C'était les balades au-dessus de Damas ou du Liban, ou également encore en 1981, la destruction en Irak du réacteur nucléaire au Irak, ce qui était le début de la fin pour l'Irak. Mais les Israéliens, c'est terminé. Avec la guerre de Syrie, la neutralité bienveillante des Russes vis-à-vis des Israéliens, c'est terminé. D'autant plus que Netanyahou a essayé de faire du chantage à Poutine. C'est quelque chose à ne pas essayer. Les Russes ont rétabli la supériorité stratégique dans le ciel au profit de l'axe de la résistance. Deuxièmement, il y a la supériorité technologique en matière balistique de l'Iran qui a cédé cette technologie à ses alliés, c'est-à-dire le Hezbollah, yéménite Ansarallah ou les Hachel Salami encore. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi Trump a quitté les accords de Genève et pourquoi aujourd'hui Biden et les Européens font du chantage à l'Iran pour que l'Iran accepte de négocier l'abandon de secteur balistique parce qu'il a fait perdre complètement la supériorité technologique non seulement aux Israéliens mais aux alliés de l'OTAN, aux Émiratis ou aux Saoudiens. Il y a donc actuellement un mélange de panique et de constat technologique. Il faut lire. Moi, je lis tous les jours la presse israélienne. Je pense que lire et se faire enseigner par l'ennemi, c'est un honneur et un devoir. C'était la devise des généraux romains. C'était la devise du géopolitique allemand, le général Ottenburg. C'est la mienne. Je lis tous les jours la presse israélienne et en particulier les lettres confidentielles dans le domaine militaire qui sont publiées par des organismes proches de Tsahal. Il y a réellement une panique actuellement. Ils sont devant un échec, devant l'incapacité à protéger leur vie, et ils ne savent pas quoi faire. Ajoutons à cela, parce qu'on oublie d'en parler, le problème pour eux, ce ne sont pas tellement les frappes sur les villes ou les pertes civiles, Vous savez que le peuple israélien est le premier otage des politiciens israéliens. Ce qui leur fait un tort sans limite, ce sont les pertes économiques. L'arrêt des vols de compagnies aériennes, l'arrêt d'une partie de l'économie, l'arrêt des importations et des exportations, cela n'a pas encore été chiffré, ça ne le sera peut-être jamais. Donc, bien entendu, Israël, pour le moment, a perdu la balle. Elle peut appeler en secours son allié américain. Elle ne remplacera pas cette supériorité technologique. Et il ne faut pas compter sur l'Iran pour l'abandonner.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. Monsieur le professeur d'Ortiguier, alors parallèlement à, justement à ce bouleversement sur le plan militaire, sur la scène politique aussi, la défaite, la récente défaite de l'entité israélienne a eu un impact dévastateur. Netanyahou voulait en effet en quelque sorte se sauver en déclenchant cette guerre, mais il paraît qu'il a été la première victime justement de cette, défaite. En d'autres termes, il paraît que les autres politiciens israéliens ont préféré de le liquider pour pouvoir en effet se sauver, n'est-ce pas?
Oui, c'est une fuite en avant qu'a fait M. Netanyahou, et certainement que les politiciens israéliens, d'ailleurs très habiles, démontreront que M. Netanyahou ne représentait pas l'opinion israélienne. Ils diront que celui-ci était une politique, disons, trop appuyée sur les partis extrémistes et autres. Je crois en effet que M. Netanyahou, si je puis dire, avec le dossier ensuite personnel qu'il a, vous savez, dossier judiciaire et autres, disons, est très affaibli. Il est affaibli dès le départ. C'est pour ça qu'on peut faire une énorme pression sur lui et, bien sûr, mettre sur son compte une politique qui est générale, mais qu'on dira être celle de l'aveuglement, disons, de l'impréparation même de M. Netanyahou. En effet, cette ligne politique est tout à fait, disons, naturelle. Mais je reprends, j'étais très frappé, je dis très brièvement, ce que M. Luc Michel a dit de l'arrêt des investissements, de la diminution des investissements étrangers en Israël. Ceci, en effet, alors, est un événement qui est extrêmement grave, et je crois que cette gravité est sentie, justement, par ce qu'on peut appeler l'économie israélienne, évidemment, tant en Israël même que chez ceux qui la soutiennent à l'étranger, en particulier aux États-Unis.
Merci encore, Monsieur d'Ortiguier. Monsieur Michel, et pour vous, une fois Netanyahou liquidé, qu'est-ce qui va se passer sur la politique, sur la scène politique israélienne? C'est-à-dire que, justement, en ce qui concerne c'est la poursuite de la politique belliciste et agressive de l'entité israélienne contre la population de la bande de Gaza.
Je pense que vous allez trop vite en musique et que vous enterrez trop vite Netanyahou avant qu'il soit mort. Il faut voir que Netanyahou a quand même remporté la moitié des suffrages au Parlement israélien aux dernières élections. C'est le principal parti israélien. C'est même le seul parti qui est consistant. Tous les autres, ce sont des partis groupusculaires. Ils se sont réunis entre eux dans une majorité hétéroclite pour justement chasser Netanyahou du pouvoir. Cette majorité hétéroclite, elle va, vous allez comprendre, elle va des partis arabes, dont un parti islamiste, jusqu'à l'extrême droite religieuse israélienne, qui est anti-arabe, xénophobe et raciste. Il y a notamment dans cette majorité le parti de Meir Kayyam, vous savez, l'ancien dirigeant ultra-sioniste raciste américain. À partir de ce moment-là, on peut se poser des questions. D'une part, si Netanyahou ne parviendra pas à torpiller cette majorité, c'est ce qu'il essaye de faire maintenant, mais surtout combien de temps elle va durer. Vous savez, je viens de vous le dire, je suis au jour le jour la politique israélienne dans les médias israéliens, parce que c'est un élément incontournable de la géopolitique mondiale, exactement comme les élections françaises, par exemple, ou britanniques. Et il faut savoir qu'hier, le Times of Israel, c'est le grand journal avec Arrête, a publié un grand article où il a expliqué quelles avaient été les négociations et les accords de majorité. Cet article était illustré par une photo de 14 dirigeants qui représentent les 14 factions qui se sont mises d'accord contre Netanyahou. Chacun de ces gens a négocié séparément On les tient par un avantage, par un ministère, par un budget. Cela n'est évidemment pas tenable. On a fait aux partis arabes et en particulier aux islamistes des promesses qui vont à l'inverse des promesses qui ont été faites à l'extrême droite religieuse, notamment la légalisation des implantations. Et on espère aujourd'hui que les États-Unis vont garantir tout ça. C'est une solution qui n'est pas tenable. Je sais qu'en Iran, on a déjà considéré Netanyahou comme mort, mais malheureusement, j'insiste sur ce thème, ce n'est pas encore le cas. Deuxièmement, il faut ajouter quelque chose, c'est que depuis les deux dernières décennies, la politique israélienne a été likoudisée. C'est-à-dire que le Likoud, qui était un parti marginal au début d'Israël, qui représentait ce qu'on appelait le sionisme révisionniste, c'est-à-dire les fascistes, en fait, l'extrême droite sioniste qui, dans les années 30, collaborait avec Mussolini, mais aussi avec Hitler, eh bien, le Likoud, petit à petit, qui est l'héritier officiel de Jabotinsky, le leader du sionisme révisionniste, Netanyahou fait des métiques derrière d'immenses portraits de Jabotinsky, le Likoud a droitisé toute la politique israélienne. Il y a, dans les partis actuellement, dans le programme des partis qui forment, soi-disant, la nouvelle majorité, ils ne sont pas détachés, ils sont dépendants du programme du Likoud, notamment sur Gaza, la Cisjordanie, l'extension des colonies ou l'annexion de Jérusalem comme capitale d'Israël. À partir de ce moment-là, il ne faut rien attendre du nouveau gouvernement israélien, d'autant plus que si jamais réellement il renvoyait Netanyahou dans l'opposition, ce qui ne veut pas dire qu'il est mort, mais qu'il va devenir un leader puissant et implacable de l'opposition, pour pouvoir garder justement les partisans qui ont quitté le Likoud, déçus par la défaite justement dans les derniers événements de Gaza, eh bien, il faut absolument maintenir le programme ultra-sioniste. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont allés aux États-Unis obtenir l'aide de Biden. Mais ne faites pas non plus d'illusions sur Biden. Biden en géopolitique, pas seulement en allure au Proche-Orient, mais en Russie, en Chine ou en Amérique latine, Biden marche étroitement sur les pas de Donald Trump.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Chers amis auditeurs, nous nous attarderons cette semaine dans le palais-musée de Chehel Sotun, le musée d'histoire naturelle, ainsi que le palais d'Arash Pehesht dans la ville d'Ispahan. Restez avec nous. Au milieu d'un grand jardin de 67 000 mètres carrés, derrière la place Nakhch-e-Jahan se trouve un très bel édifice, connu sous le nom de Chehel Sotun.
construit à l'époque de Shah Abbas Ier, des Safavides, pour accueillir les ambassadeurs et les envoyés politiques des gouvernements étrangers. L'édifice est composé de 2 salles, d'un grand bassin et de 20 colonnes, dont l'image se reflète dans l'eau. L'observateur voit ainsi 40 colonnes, d'où l'appellation de cet édifice. D'autant plus que le chiffre 40 signifie, dans la littérature persane, la pluralité, tandis que, dans la culture islamique, il est considéré comme un chiffre particulier et sacré. Ce palais, érigé en grande partie sous le règne de Shah Abbas Ier, présente un superbe talar, vaste espace abrité précédant l'entrée, tel un porche monumental, au remarquable plafond de marqueterie soutenu par 20 gracieuses colonnes en bois. Chelsotun signifie 40 colonnes. Si l'on prend en compte la duplication par effet du reflet des 20 initiales se mirant dans le bassin principal du jardin, le compte est bon. L'intérieur du palais se révèle encore plus beau que l'extérieur. Somptueusement décoré de fresques illustrant plusieurs hauts faits de souverains safavides, telle la pentagruélique réception donnée par Shah Abbas Ier au roi du Turkestan, venu se soumettre à son hôte, la salle d'audience devait impressionner les ambassadeurs étrangers qui y étaient conviés. Les petites salles attendantes sont également décorées de fresques magnifiques, montrant à la perfection toute la délicatesse et la beauté de l'art pictural persan. L'architecture du palais aux 40 colonnes est une combinaison de l'art architectural iranien, chinois et européen. L'édifice comprend un grand ivan principal de 38 mètres de longueur, 17 mètres de largeur et 14 mètres de hauteur. Les colonnes de l'ivan en bois de sapin et de platane qui s'ouvrent sur l'est sont octogonales. 4 lions en pierre constituent les piédestaux des 4 colonnes qui se trouvent au milieu de l'ivan. La salle centrale du palais était réservée aux invités étrangers et à des personnalités importantes des autres pays. Sur les murs de la salle, on remarque de très belles peintures dont certaines montrent des événements historiques, tels que la guerre du roi Ismaïl Safavi avec l'armée ottomane à Chaldoran ou la guerre de Nader Shah avec les hindous. Il y a aussi des peintures influencées par le style européen. Le plafond de l'ivan principal aux 40 colonnes est décoré de diverses peintures enserrées dans de fins cadres en bois sous diverses figures géométriques. L'édifice est aussi décoré de très belles œuvres de miroiterie. Le plafond de la salle principale est composé de 3 dômes où l'art de l'orfèvrerie excelle et qui se range parmi les œuvres d'orfèvrerie historiques les plus remarquables de l'Iran. Dans l'ensemble, le plafond de l'édifice comprend une combinaison de différents arts. L'art sur bois, l'art sur miroir, la miroiterie, peinture, etc. À l'intérieur du bâtiment historique du palais se trouve un musée où l'on garde et expose au public des œuvres précieuses, des poteries, des ouvrages en métal, des objets en cristal et des manuscrits écrits à la main datant de diverses périodes de l'histoire de l'Iran. À une petite distance du palais aux 40 colonnes, on remarque le musée d'histoire naturelle Ispahan. De très intéressantes espèces, vivantes ou mortes, sont conservées dans ce musée, rappelant l'histoire de la nature et de la création. Le musée d'histoire naturelle Ispahan a été fondé et inauguré en 1989 dans la salle Teymouri, un des anciens monuments historiques de l'époque timoride à Ispahan. Le musée a été mis sur pied avec l'objectif d'élever le niveau de la science et des connaissances générales de la société sur le monde de la création et la puissance de Dieu Tout-Puissant, de même qu'il favorise des recherches dans le domaine des sciences naturelles, permettant également la sauvegarde du patrimoine naturel. Outre une bibliothèque et un atelier de réparation et de fabrication, le musée compte 7 salles d'exposition. On peut dire que le musée d'histoire naturelle Isparan est un musée exceptionnel, vu notamment la diversité des espèces qui y sont conservées, entre autres une collection rare d'éponges des alentours de l'Australie, des coquillages de l'Atlantique et du Pacifique, ainsi que des fossiles des très anciennes époques de l'Iran. Avec tous ces ouvrages et objets exceptionnels, le musée d'histoire naturelle d'Isparan s'ajoute aux nombreux autres attraits touristiques de la ville. L'un des autres monuments précieux d'Isparan que nous voulons vous présenter cette semaine est le palais de Hasht Behesht, Vie Paradis, qui est une autre illustration de l'art et de la délicatesse de l'architecture iranienne. L'édifice de Hasht Behesht, Vie Paradis, se dresse au milieu d'un beau et grand jardin appelé Jardin du Rossignol, peuplé de vieux arbres et de hauts platanes. Le Jardin du Rossignol faisait en effet partie du grand jardin de Nakhchivan qu'on connaît sous le même nom. L'édifice de Hasht Behesht est long de 35 mètres et large de 26 mètres. Il s'appuie sur un pilier en marbre de 2 mètres de haut, à partir du sol du jardin. Le palais comprend 2 étages avec de nombreuses chambres, salles et couloirs sur les murs et les plafonds desquels on remarque de très belles plâtries et miroiteries. Le palais de Hasht Behesht est octogonal, tout comme la plupart des édifices de l'époque safavide, architecture particulière qui a en effet décuplé la beauté de l'édifice. Au milieu de la salle principale, on trouve un bassin octogonal en marbre, qui est connu sous le nom du bassin de la perle. Les voûtes et les ivanes ont été construits de manière à permettre la contemplation de beaux paysages de tous les côtés. Tous les plafonds et les murs sont décorés de très belles mosaïques avec des motifs floraux et des rossignols. Toute chambre ou tout ivan est doté d'une forme et de décoration particulières qui les distinguent les uns des autres. Il n'y a donc aucune répétition dans ce magnifique édifice, dont tous les coins exposent aux visiteurs l'art, le génie et le raffinement des artistes créatifs iraniens. Sans avoir connu aucune transformation depuis sa création à l'époque safavide, le palais de Hasht Behesht se range indubitablement parmi les palais exceptionnels et rares de cette époque safavide. Ce n'est donc pas bizarre d'entendre de Chardin, grand voyageur français, le considérer comme plus agréable que les palais les plus luxueux d'Europe. Nous voici au terme de cette émission. Soyez nombreux la semaine prochaine aussi pour nous accompagner dans une autre promenade dans la belle ville d'Isparan. D'ici là, au revoir et bonne semaine.
Thank you.